Bonjour, bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci à Christophe Prado d'abord d'avoir consacré ces 2 jours au prix Lavinal qu'il a reçu hier au village de Bages. Et nous sommes ravis de vous accueillir, d'accueillir donc le lauréat du prix Lavinal 2010 pour son deuxième roman paru chez Verdier, La Grande Sauvagerie. Je voudrais revenir de façon très courte, parce que ça a été fait un petit peu hier, sur vous, Christophe Prado, parce que vous êtes encore peu connu, même si le prix Lavinal va permettre une connaissance large. Vous êtes aussi, je crois, en lice pour le prix du livre Inter 2010, qui est remis lundi.
Lundi,
voilà, donc en vous souhaitant le même succès. Alors, donc, vous avez, donc, pour faire vite, vous avez 39 ans, vous êtes un jeune auteur qui est aussi professeur de littérature à la faculté à Paris, Paris 4, c'est ça ?
C'est ça.
Et vous êtes originaire du Limousin. Alors si je commence par ce trait biographique rapide, c'est que c'est une importance quand on vous lit, déjà par ces deux romans. Donc, La Grande Sauvagerie et le précédent qui s'appelait La Souterraine, qui était aussi édité par même éditeur Verdier, que j'ai eu plaisir de lire aussi postérieurement à La Grande Sauvagerie et que j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié. Et donc, le Limousin traverse vraiment, enfin, du moins, le lieu ou les lieux sont vraiment très prégnants dans votre œuvre. C'est un lieu de votre enfance, si je crois.
Oui, en fait, j'ai commencé à écrire quelques années après avoir quitté le Limousin, mais il se trouve que les premières tentatives d'écriture, en fait, le premier texte que j'ai essayé d'écrire, c'est ce qui est devenu plus tard La Souterraine. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier des projets avortés, en fait, j'ai travaillé très longtemps sur un projet qui a fini par aboutir, mais après bien des formes. C'est-à-dire que c'est un texte, je sais pas, que j'ai dû écrire 5 fois. Avant de le donner à lire au dehors de mon cercle amical et donc de le présenter à un éditeur. Et pour des raisons que j'ignore, j'ai trouvé en fait un espace où pouvait se libérer en fait l'imaginaire et la fiction dans ce lieu qui était pour moi donc le lieu de mon enfance. C'est-à-dire que il m'était impossible de prendre appui sur les lieux que j'habitais au moment où j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire essentiellement Paris. Et j'avais besoin en fait, d'un espace où je serais au large. Et donc cet espace au large, il se trouve qu'il a coïncidé avec ces lieux de mon enfance. Alors qu'il ne faut pas chercher, disons, la description réaliste en fait du Limousin ou d'une partie du Limousin, c'est un Limousin qui est largement imaginaire.
Oui.
Comme par exemple Giono pouvait dire que son sud n'était pas la Provence mais un sud imaginaire, c'est-à-dire que je m'appuie sur des lieux réels mais que je transpose, disons que j'utilise également des toponymes qui sont des toponymes réels mais je ne m'astreins pas à une reproduction réaliste de ce Limousin. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que les deux romans que j'ai écrits jusqu'alors se situent dans la région dans laquelle j'ai grandi, c'est-à-dire en fait ce point de contact entre la Haute-Vienne et la Corrèze, qu'on appelle le pays arédien. Et plus précisément, en fait, les alentours du village dans lequel j'ai passé l'essentiel de mes vacances jusqu'à l'âge de 19 ans, qui s'appelle Lubersac.
Comme Thérèse Mandaloni, la narratrice qui quitte Saint-Léonard, donc ce village, à 18 ans. Un petit peu.
Oui, voilà. Il y a évidemment quelques traits biographiques
quelques
qui ont été qui ont été transférées aux différents personnages de mes deux livres, même si c'est pas du tout des romans autobiographiques, vraiment, oui, loin de là. Enfin, je m'inscris délibérément dans une perspective fictionnelle, précisément, et je suis assez rétif en fait à la tendance auto-fictionnelle, oui, de la littérature contemporaine. Pour moi, la fiction permet de dire des choses que l'autobiographie ne peut pas dire. Mmh. Et j'ai apprécié un certain nombre de livres d'ordre autobiographique. C'est pas, voilà, c'est vraiment une, c'est-à-dire que, mais pour moi, c'est pas l'autobiographie qui va le plus loin.
Oui.
Alors que je sais que actuellement c'est
la tendance, mais
il y a une certaine tendance effectivement à la fois des écrivains et puis également des théoriciens à valoriser la démarche autobiographique par rapport à la démarche romanesque. Moi, je pense que le roman va beaucoup plus loin que l'autobiographie. Mmh. Mais bon, c'est des positions personnelles, oui, que je pourrais défendre, oui, de différentes façons, mais que je me contenterai de poser là, comme ça.
Oui, en tout cas, dans vos deux ouvrages, enfin, si je peux me permettre, qui ont de nombreux, qui opèrent de nombreux échos, qui de nombreux liens, mais le Limousin n'est qu'un trait le plus caractéristique, mais en fait, c'est un point de départ. C'est le point de départ en fait de façon de l'écriture et de l'imaginaire du personnage et le lieu est associé aussi à l'espace, est associé aussi au temps. Il y a une grande part de, enfin, c'est les deux matrices de votre œuvre, puisque les personnages à la fois voyagent dans l'espace. Et à la fois, donc il y a une trajectoire comme ça en avant, et en même temps il remonte le passé, et donc il y a une certaine forme de parallèle que l'on peut faire entre ces deux trajets, un trajet en avant et un trajet en arrière, puisque l'imaginaire lui va se construire à rebours, mais qui va revenir dans ce lieu, qui va s'enraciner dans ce terreau natal.
Oui, alors effectivement, dans les deux livres, selon des modalités vraiment différentes, ces deux livres qui ont été quand même conçus comme des pendants, enfin, c'est deux livres évidemment qui se lisent parfaitement indépendamment,
oui,
l'un de l'autre,
oui, oui,
mais qu'on peut lire en relation l'un par rapport à l'autre. Et dans les deux cas, le Limousin est un tremplin, c'est-à-dire que disons que les deux ouvrages, en fait, essaient de réfléchir de façon romanesque, donc à travers des récits, des histoires, sur le rapport qui existe entre le local, le fait qu'on habite dans un lieu, qu'on a grandi dans un lieu, qu'on est enraciné dans son enfance, et en même temps l'universel. Et donc, c'est des lieux. Enfin, dans les deux ouvrages, on habite le Limousin, mais aussi on part, on voyage. Et ces deux livres, en fait, qui circulent à travers le monde,
oui,
et également à travers le temps, parce que une autre interrogation des deux ouvrages, là encore, c'est pas une interrogation philosophique, enfin c'est une interrogation vraiment romanesque, donc ça passe par des récits, mais j'essaie de réfléchir à la façon dont on vit à la fois d'une vie personnelle, d'une vie familiale, c'est-à-dire dans un tout petit îlot de temps qui s'étend sur quelques décennies, sur un siècle pour les plus favorisés d'entre nous. Et qu'en même temps, à travers la mémoire familiale, la mémoire personnelle, à travers la mémoire culturelle, à travers la mémoire historique, on vit sur une scène beaucoup plus large, et on peut s'éprouver, alors selon plus ou moins intensément, selon les individus, selon notre situation sociale, culturelle, mais on peut s'éprouver solidaire d'une aventure qui nous dépasse très largement, qui est l'aventure humaine, et même plus largement l'aventure de la vie, parce que dans les deux ouvrages, j'essaie de réfléchir à la place de l'homme dans le monde, et donc les animaux, par exemple, jouent un rôle important. Enfin, c'est des livres dans lesquels les animaux sont Non pas des protagonistes, mais ils sont présents. Par exemple, les personnages s'intéressent beaucoup aux insectes.
Oui, dans les deux livres, oui.
Dans le premier, c'était les abeilles.
Oui.
Dans le deuxième, c'est plutôt les mouches, enfin, selon des modalités diverses, parce que, à la fois réellement, c'est-à-dire que la narratrice, qui s'appelle Thérèse Gandaloni, dans son adolescence, s'intéresse aux éphémères, donc à ces insectes qui ne vivent qu'une journée.
Elle en est même affectée.
Et en même temps, si elle s'intéresse à ces insectes, c'est parce que elle est hantée par eux, en ce sens, enfin, de façon métaphorique, mais parce qu'elle souffre d'une affection qui est très commune, c'est des mouches, des phosphènes, donc dans le regard, dans les yeux. Donc c'est une affection qui touche assez banalement les myopes, mais qui l'affecte très tôt, très jeune, dès sa prime enfance et de façon très très intense. Enfin, avec plus de, enfin, c'est quelque chose qui affecte vraiment sa relation au monde, parce que en fait, elle doit apprendre à vivre avec ces mouches qui s'interposent entre elle et le monde. Et c'est quelque chose qui détermine le regard singulier qu'elle pose sur le monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas quelque chose qui est donné pour elle, mais qui doit être conquis, hein, parce que précisément, il y a des obstacles entre elle et le monde. Et c'est quelque chose qui organise une grande partie du livre.
Oui, puis elle voit ce que d'autres ne voient pas. C'est important, cet attrait pour le monde du visible, de l'invisible. Des choses qui sont souterraines, justement, pour reprendre le titre de votre premier ouvrage.
Alors, c'est deux livres, oui, qui donnent une importance extrêmement grande au visuel, à la vue, hein, plus que les autres sens. Et effectivement, donc dans La Grande Sauvagerie, cette infirmité relative, enfin, c'est pas une infirmité qui est extrêmement dommageable, mais enfin qui est une véritable gêne, fait que elle s'interroge sur ce que c'est que regarder. Elle a été contrainte de s'interroger sur ce que c'est que regarder, parce que précisément c'est pas quelque chose de naturel pour elle, et c'est une conquête, et ça l'a amené, les ruses qu'elle est obligée de mettre en œuvre pour regarder, l'ont amené à voir, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, des choses que les autres ne voient pas. Et c'est ce qui fait que son environnement lui apparaît pas comme un environnement naturel, comme un milieu dans lequel elle habite harmonieusement, mais comme quelque chose qui est de l'ordre de l'énigmatique. C'est-à-dire qu'elle a le sentiment que dans le village dans lequel elle habite, elle a fait un certain nombre de remarques, elle a vu des choses que les autres n'ont pas vues, qui fait que le paysage lui apparaît comme une énigme.
Oui, alors une énigme qui la fascine, qui la terrifie aussi. Il y a une sorte d'ambivalence qui est au cœur de cette grande sauvagerie, parce que ce lieu dit, donc il faut rappeler peut-être un petit peu le contexte, ce domaine de la grande sauvagerie sur lequel est érigée donc une lanterne des morts qui surplombe donc le paysage, et donc Thérèse Gandaloni va percer, comme vous dites, enfin, l'énigme, va déchiffrer après un long détour des années d'errance, donc justement elle va errer géographiquement, elle va être dans plusieurs pays, elle va mener sa carrière universitaire, elle va revenir de façon presque fortuite dans ce lieu-là dont elle n'avait pas au départ entrevu toutes les richesses et toute la beauté, en fait, toute la densité, quoi, qui ne lui apparaissait pas au départ et qu'elle avait fui d'ailleurs.
Oui, donc c'est un lieu qui dans un premier temps lui apparaît comme une sorte de prison. C'est-à-dire que elle vit dans un village relativement isolée, elle n'en sort presque jamais, et c'est un village qui est érigé sur une sorte de piton rocheux. En fait, l'un des éléments déclencheurs de l'écriture du roman, c'est toujours difficile de dire comment on a été amené à écrire un livre. Mais disons qu'un des éléments déclencheurs, c'est la découverte que j'ai faite d'un village qui est près de Lubersac, donc ce village dans lequel j'ai grandi, mais que je ne connaissais pas. Enfin, donc c'était un village qui était à 15 km, mais dans lequel jamais j'avais été amené j'avais jamais eu l'occasion de le visiter, parce que ma famille n'allait pas de ce côté-là. C'était donc quelque chose de tout près, mais d'inconnu. Donc j'ai découvert un village dont la configuration était assez étonnante, donc étagé comme ça sur un piton rocheux avec une vue extraordinaire sur une vallée. Et ce qui a été l'élément déclencheur de l'écriture du livre, enfin, en tout cas l'un des éléments déclencheurs, c'est que ce village avait une particularité étonnante que j'ai outrée, enfin que j'ai démesurée dans le livre, mais qui existe dans ce village donc, qui s'appelle Saint-Robert. C'est qu'il y a un ravin qui sépare le village à proprement parler d'une propriété qui visiblement est à moitié abandonnée, et donc avec un parc un parc assez beau qui en surplomb comme ça sur la vallée, puis une maison, une grande maison bourgeoise. Et j'ai trouvé ça assez étonnant comme configuration, parce qu'on avait le sentiment que les gens qui habitaient dans cette maison devaient avoir une vue sur le village qui était de l'ordre en fait de spectateurs par rapport à un théâtre, et vice versa. C'est-à-dire que vous voyez, il y avait une sorte, comme si le vide était une sorte de rampe comme ça qui séparait le village de cette propriété qui était légèrement en surplomb. Un lieu qui m'a semblé étonnant. Vous savez, j'ai eu envie d'imaginer une histoire qui le mettrait en mouvement. Je n'ai absolument pas respecté la topographie de l'endroit, mais je suis parti de cette particularité étrange, hein, de cette faille ça, qui séparait le village, pour m'en parler, de cette propriété. Et donc le personnage, Thérèse Gandaloni, qui raconte l'histoire, elle grandit dans le village. Elle éprouve comme un lieu tentateur, enfin comme un endroit dans lequel elle aurait envie de pénétrer, hein, cette propriété en surplomb, à laquelle personne semble faire attention. Hein, il y a qu'elle qui s'intéresse à cet endroit, et qui a donc plusieurs particularités. Donc d'une part, une sorte de château abandonné avec une tour dont on ne comprend pas très bien la fonction. Et puis par ailleurs, au milieu du parc, il y a une lanterne des morts. Une lanterne des morts, c'est-à-dire c'est un type de monument, donc je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais c'est un type de monument qui est assez fréquent dans le Massif central et puis dans l'Ouest, en Bretagne. C'est-à-dire, en fait, dans les régions de la France dans lesquelles il y a par ailleurs des menhirs ou des dolmens, dont l'origine est très certainement celtique, antérieure à la christianisation de la France. Enfin, c'est une des hypothèses que font les historiens. Une hypothèse qui a été largement développée par les historiens romantiques et l'historien de la fin du XIXe siècle, mais que l'historien actuel continue à supposer fiable. Et on ne sait pas très bien quelle est la fonction de ces tours. C'est des tours donc relativement peu élevées, mais qui sont construites sur des hauteurs, et dans lesquelles brûlait un feu. Et elles étaient encore en activité au XIXe siècle, pour certaines d'entre elles. Et on pense que leur fonction était à la fois pratique, c'est-à-dire qu'elles fonctionnaient comme des phares de pleine terre pour orienter la route des voyageurs égarés dans la forêt ou dans la campagne. Et puis par ailleurs, une fonction culturel, hein, pour rendre hommage aux morts ou pour écarter les fantômes. Thérèse porte attention à ce lieu dit, dont elle sait qu'il s'appelle la Grande Sauvagerie, nom qui par ailleurs lui semble un peu étrange, énigmatique.
Oui, alors elle va en découvrir la fonction a posteriori et le caractère historique, puisqu'elle va Elle va se, elle, c'est en fuyant de cette façon, enfin du moins en la vie, puisqu'elle quand elle raconte son histoire, en fait, elle se décrit comme presque une petite vieille. Donc après une quarantaine d'années d'errance, elle va c'est ça.
Oui. En fait, elle part. Elle quitte le village autour de sa 20e année et elle revient, elle a 65 ans. À peu près. Et elle a passé ses 40 années à voyager à travers le monde. Et puis, enfin, dans un premier temps, à voyager beaucoup dans des régions assez différentes. Par exemple, elle vit quelques années à Istanbul. Ces voyages sont relativement peu développés dans le livre. Hein. Ils sont racontés en quelques pages, en une quinzaine de pages. Et elle s'installe donc durablement, par contre, en Amérique du Nord et particulièrement à New York.
Et elle va y faire une découverte qui va bouleverser son existence.
Oui, parce c'est que en fait, lorsqu'elle a quitté le village, donc elle a le village lui est est un lieu qui la fascine, qu'elle vit comme une énigme, mais dont elle ne connaît rien, en fait, dont elle ne sait rien. Elle ne sait pas quel est le passé du village, les histoires qui sont contenues dans le paysage. Et personne n'est capable de lui dire ce que c'est que cette grande sauvagerie. Donc c'est un lieu de fascination, mais elle n'en sait pas plus. Et en fait, elle part. Pour des raisons qui sont relativement peu éclaircies par le livre, parce qu'elle raconte sa vie sans en dire beaucoup sur elle-même. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une vie, mais de façon un peu oblique. C'est pas ça qui est important en premier lieu. Elle va découvrir un peu par hasard dans une bibliothèque américaine. Un livre et surtout un manuscrit qu'elle va publier qui va servir de fil d'Ariane pour entrer dans le domaine de la grande sauvagerie. C'est-à-dire que elle va découvrir un manuscrit écrit par un colon français de la belle province, donc un peintre bourguignon qui s'appelle Jean-François Rameau, qui est un très lointain cousin ou supposé cousin du grand Rameau, le musicien, et qui est un peintre de portraits peu talentueux, en tout cas qui se considère comme tel et qui sans doute est assez peu talentueux, et qui, pour diverses raisons, décide de partir pour les Amériques, où il va se faire de façon sans doute comme une façon de s'auto-flageller, parce que c'est un esprit, un homme des Lumières, proche du milieu philosophique, des philosophes, et il se fait peintre d'ex-voto à Montréal. Et lorsque la ville tombe aux mains des Anglais, il arrive à Montréal dans les dernières années de la présence française, il quitte Montréal et il part à l'aventure dans ce que les colons français appellent la grande sauvagerie, c'est-à-dire les terres inexplorées, hein, ce que les colons anglophones appellent, eux, le Far West ou the Wild, hein, c'est-à-dire les terres sauvages, donc ce qu'on peut traduire volontiers en français, précisément, par la grande sauvagerie. Et donc, elle est déjà étonnée de découvrir cette coïncidence qui fait que ce qui est pour elle le lieu dit par excellence, la grande sauvagerie, hein, c'était pour elle, c'est le lieu dit par excellence, le nom de lieu énigmatique autour duquel s'est construite son enfance. Elle est étonnée de découvrir que pour les colons canadiens, il s'agissait précisément d'une expression qui désignait l'impossibilité de nommer les lieux. Parce que appeler la grande sauvagerie, c'est l'ensemble des territoires qui sont des blancs sur la carte, hein, qui n'ont pas de lieu dans lequel on ne se repère pas. Et en fait, elle éprouve cela comme une coïncidence troublante dans un premier temps. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que cela, parce qu'elle va découvrir, en éditant ce journal inédit, Ce qui va donner lieu d'ailleurs dans le roman à une sorte de roman dans le roman, c'est-à-dire un roman d'aventure qui est l'exploration de la grande sauvagerie par
comme, comme dans La Souterraine, il y avait un petit récit qui remontait à l'origine des Romains.
Voilà, c'est une pratique effectivement que j'aime bien, du roman dans le roman. Voilà. Et donc elle va découvrir que ce Jean-François Rameau, en fait, est l'ancêtre de la famille qui a fondé et qui a habité pendant 2 siècles la Grande Sauvagerie de Saint-Léonard. Et que donc la Grande Sauvagerie de Saint-Léonard a été nommée en hommage à cet ancêtre fondateur et donc en relation avec la Grande Sauvagerie nord-américaine. Ça, c'est quelque chose que, après coup, j'ai pas découvert, on m'a dit, après coup, qu'il y avait des toponymes, qu'il y avait des grandes sauvageries en Vendée, par exemple, dont on peut penser que ces lieux-dits ont été nommés par des anciens colons canadiens qui ont fait retour en France. Et donc, l'hypothèse que j'ai posée dans le roman n'est pas totalement historiquement infondée. Enfin, il y a peut-être eu des grandes sauvageries qui ont été nommées comme ça en souvenir d'une vie passée au Canada par des colons qui ont fait retour en France.
Donc vous aussi, vous l'avez découvert a posteriori. Alors, oui. Vous avez mené la même...
Non, ça, c'est pas moi qui menais enquête.
On vous l'a dit après. Voilà. Mais cette innommée grande sauvagerie, ou du moins qui rappelle en même temps, j'ai l'impression, cette faille, ce ravin qui existe entre Saint-Léonard et le lieu-dit est vraiment quelque chose de central aussi. On sent que tout se passe, les noms des lieux, les noms la mémoire en fait collective de ce terreau est vraiment de ce terroir est vraiment important, parce que ça va faire référence aussi à une expérience qu'elle a vécue, Thérèse, à 18 ans quand elle est partie en tant que bénévole pour un recensement, et où elle va se rendre compte que nommer, justement, la première expérience est quelque chose de très important, et ça fait référence aussi, j'ai l'impression, au fait d'écrire.
Oui, alors peut-être pas écrire à proprement parler, mais effectivement, dans un des enjeux du livre, c'est qu'est-ce que c'est que donner un nom, quelque chose.
Oui.
Voilà. Et donc à la fois des noms de lieux, mais en l'occurrence, l'anecdote à laquelle vous faites référence, je peux la raconter.
Oui.
Ça fait partie des quelques... Le second livre, en fait, utilise beaucoup moins le matériau... biographique que le premier. Enfin, c'est un livre qui est davantage construit avec des apports extérieurs, avec des inventions. Mais là, c'est vraiment une anecdote qui m'a été donnée, qui m'a été transmise par un grand-oncle qui, dans les années 50, a participé à un recensement en Limousin, et qui a été amené, ce faisant, à rendre visite à des paysans qui habitaient dans des fermes très reculées, tout à fait en dehors des grands axes de circulation, et donc dans des endroits où on parlait pas encore en 1950 français, où on parlait vraiment que patois, où on comprenait très mal le français. Et dans une de ces fermes, il a rencontré une famille qui vivait quasiment en autarcie, avec une quinzaine d'enfants. Et donc il a demandé au père de famille donc d'énumérer le nom de ses filles et de ses fils, et donc ce qu'il a fait. Mais arrivé au petit dernier, donc peut-être le 12e ou le 13e, je ne sais plus très bien, le père lui a répondu en patois: celui-là, je ne sais pas comment la mère l'appelle. Ce qui est évidemment une réponse qui est assez déconcertante pour nous, parce qu'on a une autre expérience évidemment de la famille, et qui est assez, qui est très troublante pour la narratrice, parce que précisément c'est quelqu'un qui est porté par la curiosité, par l'envie de connaître, de savoir, et évidemment également par le besoin de nommer. Elle a besoin de nommer les choses. Et c'est très douloureux pour elle de ne pas pouvoir nommer. Lorsqu'elle se promène, elle a un besoin irrépressible de dire comment s'appelle tel insecte, telle plante, etc. Et donc, imaginez qu'un enfant de 7 ans, ou peut-être un peu moins, de 6 ans, 5 ans, n'est pas nommé par son père, c'est quelque chose qui la bouleverse.
Oui, c'est une expérience à la fois anecdotique, mais qui est importante, parce qu'elle fait retour aussi, et donc Thérèse, en déchiffrant l'énigme du temps, l'énigme des lieux, en exhumant la mémoire de ces personnages, de ces gens de peu, de ces vies minuscules, on y reviendra. Elle va quand même arriver à déchiffrer cette énigme illisible, comme les carnets de Jean-François Rameau, qui sont eux-mêmes au début, elle a du mal à déchiffrer le contenu.
Oui, donc c'est quelqu'un qui a vraiment la passion de déchiffrer, effectivement, et donc elle déchiffre à bien des niveaux.
Oui.
Pour résumer vraiment très très rapidement, schématiquement, le livre, c'est à la fois l'histoire d'une vie, donc la vie de cette femme, Thérèse Gandaloni. C'est également un roman d'aventure à travers c'est l'histoire de cette aventure, enfin de ce peintre parti à l'aventure au Canada. Et donc c'est une histoire qui est déchiffrée par Thérèse Gandaloni, puisqu'elle se fait éditrice du journal qu'on a retrouvé. Là encore, c'est quelque chose que j'ai emprunté à une anecdote, cette fois-ci non pas personnelle mais historique, c'est-à-dire qu'on a trouvé au Canada. Et d'ailleurs, pas simplement au Canada, aussi aux États-Unis d'Amérique. On a trouvé, c'est arrivé 3 ou 4 fois, dans des urnes scellées, des récits schématiques, hein, de quelques pages, d'aventuriers qui étaient allés extrêmement loin dans la grande sauvagerie ou dans The Wild, et qui, pour marquer le point ultime de leur avancée, avaient enterré donc un document attestant, hein, de leur avancée dans les terres inexplorées, et en faisant des travaux comme ça, en construisant une autoroute, en labourant un champ, on a retrouvé, hein, des urnes comme ça avec quelques pages racontant des histoires oubliées. Et donc Thérèse Gandaloni, ce qu'elle fait, c'est d'éditer l'un de ses textes. Alors, là encore, avec la latitude de la fiction, ce n'est pas quelques pages, c'est un vrai livre qu'elle déchiffre.
Son 12 petits carnets.
Voilà, et donc c'est un vrai journal. Mm. Ça, on n'en a pas trouvé de tel, hein, mais par contre, les circonstances de la découverte, on l'a trouvé. Et donc, elle déchiffre, et on a à la fois dans le livre l'histoire qu'elle déchiffre, mais également les aventures du déchiffrement. Hein, c'est quelque chose d'important pour moi dans le texte. Donc ça, c'est une deuxième histoire, donc cette histoire d'une femme, cette histoire d'un homme qu'elle invente ou qu'elle redécouvre, qu'elle invente au sens archéologique, hein, inventer une ruine. Et puis il y a donc l'histoire d'une famille, cette famille qui est sortie de cet aventurier. Enfin, c'est un fondateur un peu paradoxal, parce que ses enfants ont formé dynastie en son absence, puisqu'il est parti loin.
Voilà. Oui.
Mais donc, et Thérèse va également déchiffrer l'histoire de cette famille. Et en fait, comme c'est un livre qui a une dimension un petit peu... Il y a une dimension de suspense dans le livre, donc je ne raconte pas comment le livre se résout, mais disons que ces trois histoires, donc l'histoire de Thérèse, hein, l'histoire de Jean-François Rameau, l'aventurier, et l'histoire de la famille, Rameau, qui par la suite a changé de nom et est devenu Lambert, ces trois histoires, en fait, se nouent ensemble ou se rencontrent. Et font que Thérèse va passer les dernières années de sa vie, enfin, peut-on penser, oui, dans la grande sauvagerie, dans cette propriété qu'elle avait vue de loin du village, dans laquelle elle n'avait jamais pu pénétrer étant enfant, et dans laquelle elle va s'installer. Et c'est depuis la grande sauvagerie qu'elle nous raconte ces différentes histoires.
On le comprend à la fin, parce que...
Voilà. Donc, déchiffrer l'histoire de Jean-François Rameau, déchiffrer l'histoire de la famille Rameau-Lambert, c'est une façon pour elle de déchiffrer sa propre énigme, c'est-à-dire l'énigme de sa vie. Hein, c'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, nous sommes une énigme. Hein, enfin, on n'est pas dans une relation de transparence à soi-même. Et donc, en fait, à la fin des fins, à travers donc cet entrelacement de récits, à quoi s'affronte Thérèse Gandaloni, c'est l'énigme du destin, hein, l'énigme voilà, de notre existence. Et cette énigme se pose pour elle en termes optiques, mais bon, ça c'est vraiment un point sur lequel je préfère garder le silence parce que précisément c'est la résolution finale du livre.
Oui, et voilà, parce et donc, que tout se rencontre à un moment, tout converge et est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon que sans dévoiler trop, en effet, que cette révélation finale, sorte d'épiphanie, va rejoindre en même temps la promesse que se font les deux enfants dans la souterraine, ces deux enfants donc qui sont très très proches, frères et sœurs, et qui se promettent de ne jamais oublier d'avoir été des enfants. Est-ce que ça peut rejoindre aussi
Oui, enfin, c'est deux livres où, dans lesquels l'enfant joue un très grand rôle. Alors, plus dans le premier que dans le deuxième. Le deuxième, en fait, se déploie tout au long des âges de la vie, mais effectivement donne une importance très grande, fondatrice à l'enfance et aux imaginations enfantines et à leur survivance dans le regard adulte, dans le regard des adultes. Alors que le premier livre, La Souterraine, était un livre qui, tout entier, était porté par l'imaginaire enfantin et puis par la question métaphysiques que pose en fait. L'enfance était perçue comme un âge métaphysique, comme un âge dans lequel on est proche des interrogations sur.
Mais en même temps, excusez-moi, cette origine, cette enfance, elle est vécue aussi comme la grande sauvagerie, comme dans la grande sauvagerie, comme un lieu originel à la fois d'un imaginaire flamboyant, débordant, plein de richesses, en même temps inquiétant, une familiarité comme ça inquiétante dans les deux.
Ah oui, c'est une
ambivalence très forte.
C'est une conception de l'enfance qui est assez assez sauvage.
Oui, voilà, pour le moins.
Là, c'est ce que j'essaie de faire dans pour l'instant, en tout cas dans les livres que j'écris, là par exemple le livre que je suis en train d'écrire est assez différent. En tout cas, dans les deux premiers, c'est le cas. J'essaie de construire des livres qui, absolument à tous les niveaux de l'écriture, au niveau de la narration, mais aussi au niveau de l'imaginaire et même au niveau stylistique, peuvent être perçus comme des oppositions dramatiques, hein, de contraires qui sont vraiment au contact, et donc par exemple la lutte entre les ténèbres et les lumières.
Oui.
Voilà. Et donc c'est des livres qui sont très composés, au sens où en fait tout se fait écho à l'intérieur des livres. Et donc c'est des livres où tous s'affrontent. Et donc effectivement c'est des ouvrages qui ont une certaine violence, enfin dans non pas que voilà. Mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est des livres où il y a une certaine prolifération d'histoires, qui sont brefs, hein, l'un et l'autre font 150 pages, mais il y a beaucoup d'histoires dedans qui sont racontées relativement rapidement. C'est aussi des livres assez digressifs où on avance avec des associations d'idées, les idées s'entrecroisent. Donc c'est des livres assez proliférants. Et pour contrebalancer ce côté proliférant, il est nécessaire en fait d'avoir vraiment une composition très très structurée avec des opposés qui donne en fait l'équilibre du livre. Et donc dans les deux ouvrages, Il n'y a pas un élément, somme toute, je crois, qui n'a pas sa contrepartie. C'est-à-dire que le livre est construit par des échos internes.
Oui.
Et donc, par exemple, je parlais tout à l'heure, dans le regard de Thérèse Gandaloni, de ces mouches qui circulent, donc de ces corps flottants, comme disent les ophtalmologues. Ils ont leur contrepartie dans les éphémères qu'elle étudie dans la vallée de l'Auvézère, qui est la vallée qui passe, enfin la rivière qui passe sous Saint-Léonard,
qui est présente aussi dans les deux quoi.
Oui, qui est le
comme l'étang de Cherchaud, qui voilà. Est présent aussi dans les.
Il y a quelques éléments deux, effectivement voilà. qui sont communs aux deux livres. Et donc ces éléments qui sont des éléments qui portent. Ténèbres, enfin qui enténèbre le regard, en tout cas qui le gêne, dans la seconde partie du livre, s'inverse en lumière parce que Thérèse Gandaloni, en fait, en pénétrant dans la grande sauvagerie, va découvrir des mouches qui ne sont pas des mouches porteuses de nuit, mais des mouches qui sont porteuses de lumière, en l'occurrence les lucioles. Bon, là, c'est quelque chose que je ne vais pas développer ici, mais l'un des descendants de Jean-François Rameau, donc l'un des Lambert, l'un des propriétaires de la grande sauvagerie, s'est intéressé en scientifique, en homme de science, s'est intéressé à ce phénomène très étrange qui est celui de la bioluminescence, c'est-à-dire ces corps qui produisent de la lumière, donc comme les vers luisants, certaines algues, etc. Et donc également les lucioles qui sont des vers luisants qui ont cette grâce de se déplacer dans l'air, dans l'espace, et donc qui sont plus étranges que les vers luisants de nos campagnes, et qui sont par ailleurs liés à des lieux de villégiature pour lui, en Italie en l'occurrence. Et donc c'est un exemple d'un élément de la façon dont le livre se compose. Et on a des éléments qui se font écho et qui s'affrontent ou qui se renversent. Voilà.
Mais en même temps, c'est lucioles ou ces mouches, ces insectes, du moins qui prolifèrent, l'enjeu est aussi pour les personnages de les capturer, de les emprisonner aussi, la prison aussi du regard, elle est très importante, enfin le côté captif.
Oui, c'est-à-dire que l'un des paradoxes sur lesquels réfléchit le livre, c'est celui de la connaissance qui implique d'une certaine façon de capturer et de détruire ce qu'on veut connaître. Et oui, donc il y a cette ambivalence-là, sachant qu'en fait, là encore, de façon absolument pas philosophique, mais à travers les récits, le livre essaie de réfléchir à l'héritage des Lumières, donc à la question de la raison et également du religieux. Le regard, à travers le regard, c'est la question de la connaissance qui est également posée, et de la capacité à connaître sans détruire ce qu'on veut connaître. Et c'est quelque chose qui est très compliqué, précisément quand on veut étudier des êtres aussi fragiles que des éphémères ou des lucioles. C'est-à-dire que pour les étudier, on est obligé d'attenter à leur existence
même de les figer dans l'ombre pour le premier dans la souterraine la route de l'ombre qui est aussi une histoire dans l'histoire de ces deux personnages enfants.
Oui, alors dans le premier livre effectivement il y a une matière qui joue un rôle très important, c'est une matière qui m'a fasciné, donc qui a nourri le premier livre, qui est l'ambre, donc cette résine fossile qui a, dans certaines circonstances, enferme comme ça des insectes, mais pas seulement des insectes, d'ailleurs parfois des petits serpents, des choses comme ça, qui nous viennent de plusieurs milliers d'années et qui sont à la fois des êtres qu'on a l'impression de voir tels qu'en eux-mêmes, mais en même temps ils sont morts évidemment, mais c'est cet effet de, Enfin, c'est des êtres vivants qui ont été cristallisés. Enfin, voilà. Et ça, c'est un aspect aussi dans les deux livres, hein, qui est important, qu'on pourrait parler maintenant. C'est le j'essaie. C'est vraiment un des moteurs de mon écriture, de rendre compte de façon aussi précise que possible. Donc, je ne dis pas que j'y arrive toujours, hein, mais en tout cas j'essaie de rendre compte de ce que c'est que la sensation, de sentir, qu'est-ce que c'est que les matières. Voilà. Donc ça passe beaucoup par le regard, mais ça peut aussi passer par le toucher, etc. Et c'est c'est comme ça que j'ai eu l'impression de vivre les choses en écrivant. C'est pour la raison pour laquelle j'ai une écriture qui donne une place assez grande à l'ampleur des phrases. Enfin, c'est une des caractéristiques de ma façon d'écrire, c'est des phrases assez longues, pas toujours, mais elles sont souvent assez longues. Pas dans les parties les plus narratives. Dans les parties les plus narratives, quand le rythme s'accélère, les phrases peuvent se raccourcir, mais elles sont souvent très longues parce que j'essaie dans les phrases d'aller au bout de la sensation. Et donc ça implique en fait de s'approcher le plus près, hein, de ce que c'est qu'éprouver. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas été du tout voulu. C'est-à-dire, je me suis pas dit, il faut que j'écrive des phrases longues. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça a appris. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir le sentiment que ce que j'écrivais pouvait valoir pour d'autres que moi-même, c'est-à-dire que ça pouvait susciter un début d'intérêt chez quelqu'un d'autre, c'est quand j'ai essayé précisément de rendre compte le plus précisément possible d'une sensation. Et donc, quand je me suis permis d'écrire des phrases longues. Ce qui était au départ quelque chose contre lequel j'ai un peu lutté, parce que de façon professionnelle, j'ai fait une thèse de doctorat sur un sujet qui est celui des cycles romanesques, donc des romans dans lesquels les personnages réapparaissent d'un volume en volume, enfin des longs romans, ça. Et donc, évidemment, dans ce sujet, j'ai consacré beaucoup d'attention à Proust, qui est un écrivain que je connais bien et que j'ai lu bien souvent. Et donc, je pouvais avoir le sentiment qu'il y avait une sorte d'attraction proustienne, contre laquelle je luttais. Et en même temps, c'est en me donnant la permission d'écrire des phrases longues que, en fait, j'ai réussi à constituer en fait le premier livre. D'ailleurs, c'est pas du tout la même syntaxe que chez Proust. Enfin, c'est pas la même longueur. Oui. Mais c'est en me donnant cette liberté là que les livres ont démarré. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que ça fonctionnait.
On a le sentiment, même en tant que lecteur, quand on pénètre dans la grande sauvagerie, d'être happé, oui, par la force d'un style qui peut au départ, c'est vrai, pour en avoir discuté avec des lecteurs, qui peut au départ être un peu paralysant. Alors c'est vrai, il y a une certaine forme de rugosité, de comme la pierre, hein, la pierre granitique de la lanterne aussi. Hein, il y a quelque chose d'à la fois de translucide et de magnifique. Alors il y a un critique qui est Jean-Pierre Richard qui a salué votre premier roman en parlant de l'ampleur d'une phrase somptueuse, et donc qui est plutôt un compliment et que je partage. Et donc mais c'est vrai que quand on vous lit, on ne peut pas ne pas penser, c'est pour ça aussi que personnellement j'avais beaucoup apprécié, on ne peut ne pas penser, alors pas simplement du point de vue de l'écriture, mais du point de vue de voilà, les noms des lieux, le côté après il y a des petits détails, les dalles disjointes à un moment, enfin on ne peut ne pas s'empêcher de penser à des auteurs comme ça qui vous ont nourri. Et c'est vrai qu'après, postérieur, avoir découvert que vous aviez une affection pour Proust était vraiment visible, était vraiment évident, quoi, parce que ça se ressent, la révélation finale pour la narratrice. Est-ce qu'on peut lire cette découverte des carnets de Jean-François Rameau comme un petit peu l'expérience du narrateur proustien qui découvre de façon fortuite et ou par hasard la révélation la révélation finale, quoi, de sa vocation aussi.
Sur ce point-là, je ne sais pas. Enfin, il y a des échos à la fois délibéré et inconscient, sans doute. Après, les enjeux sont très différents. Mais,
oui.
Mais c'est vrai que c'est une œuvre que j'ai en moi, et donc c'est certain que je m'appuie sur elle et sur d'autres, mais sur elle pour écrire. Mais sans doute aussi parce que c'est un roman de la mémoire, de la sensation. Enfin, il y a des choses qui, voilà, je m'inscris tout à fait dans cette lignée-là, avec d'autres écrivains comme, je sais pas, un écrivain comme Claude Simon, par exemple, que j'ai beaucoup moins fréquenté, mais qui a rencontré les mêmes enjeux. Disons que dans la tension interne qu'il y a dans ce livre, c'est que donc c'est des livres assez brefs pour des raisons diverses, essentiellement parce que j'ai pas un temps extraordinaire consacré à l'écriture, donc je suis obligé de et puis c'est un style qui recherche la densité, donc en fait c'est pas sûr que ça puisse fonctionner sur la longueur, et donc c'est des livres qui, donc contrairement précisément à Proust, sont des livres qui sont très ramassés, mais comme il y a une recherche de densité, je crois qu'il y a aussi le sentiment qu'il y a une grande prolifération intérieure, et donc ça c'est quelque chose qui change complètement en fait l'effet esthétique par rapport à Proust, je crois. Parce que c'est, voilà, c'est des livres vraiment très brefs. Voilà, c'est certain que ce qui m'a... j'aurais pas pu écrire ça sans Proust, c'est sûr.
Bien sûr, voilà. Oui. Mais on sent aussi le... Alors, pour être dans une référence plus actuelle, on sent... alors, pas non plus là, dans le sens où c'est un écrivain aussi qui est très attaché à la Creuse ou à la même région que vous, mais on sent aussi le patronage d'une certaine façon de Pierre Michon. Est-ce que vous revendiquez ou est-ce que vous acceptez cette comparaison ?
Revendiquer, je ne sais pas s'il y a à revendiquer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les premiers écrivains, disons, vivants que j'ai lus, c'est des écrivains comme Pierre Michon et comme Pierre Bergoglio. C'est d'ailleurs
Pierre
pour Bergoglio. lorsqu'il s'est agi de chercher un éditeur, j'ai envoyé mon texte à Verdier, précisément parce que c'est en lisant des écrivains qui sont publiés pas simplement chez Verdier pour Bergoglio, mais quand même beaucoup, et puis donc pour Michon, c'est à travers eux que j'ai découvert la littérature contemporaine, d'autres également. Par exemple, j'ai un lecteur attentif, par exemple, de l'œuvre en prose de Jacques Roubaud, par exemple.
Oui.
Il est certain que il y a une parenté, enfin, parce que je les ai lus, parce que également on a des expériences communes à distance, évidemment, il y a une génération d'écart, mais on a un rapport au monde qui a été façonné par les mêmes paysages, voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que, enfin, par exemple, pour avoir discuté avec Michon, avec Bergoglio, les réactions, par exemple, à mes livres, ils ont eu la gentillesse de dire ce qu'ils ont pensé. Ils ont effectivement le sentiment que c'est la même aventure,
qui se perpétue.
Mais avec cette distance d'une génération qui fait que le Limousin qui a été le leur n'est pas le mien, et donc c'est un Limousin qui est décloisonné, qui est largement ouvert sur le monde. Et voilà. Mais c'est certain que, pour diverses raisons qui ne sont pas toujours très claires pour moi, mais il y a une continuité.
Il y a une parenté évidente.
Et c'est également quelque chose qui témoigne de la qui est très intéressant, parce qu'il y a actuellement, en fait, il y a plusieurs écrivains qui sont des trentenaires chez Verdier qui sont entrés dans la littérature contemporaine à travers Michon.
Oui. Et une famille comme ça.
Voilà. Et donc il y a une famille qui se constitue, et c'est la marque de la c'est une des marques de la fécondité d'une œuvre. C'est Voilà, désormais, il y a comme ça une sorte de petite lignée qui se constitue. Bon, c'est pas les mêmes choses, les mêmes enjeux, les mêmes aventures, mais il y a une parenté, c'est certain.
Oui, on a vraiment le sentiment d'avoir une filiation comme ça. Et j'aurais écouté personnellement des entretiens que Pierre Michon avait accordé et il était question aussi, donc c'est pour ça que votre livre m'a aussi intéressé, m'a aussi rappelé à ça, que il dit que dans ses livres il essaie de faire parler les morts, et c'est d'une certaine façon ces vies minuscules, ces petites gens, qui sont au centre en fait de la mémoire, qui sont oubliés, mais qui grâce à Thérèse ou à Jean-François Rameau, qui sont rendus vivants vraiment.
Oui, donc c'est une dimension effectivement. Même si dans mes deux livres, la question des vies minuscules telles qu'il la pose, oui, n'est pas centrale, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension là qui est présente. Disons que mes deux romans en fait sont moins construits sur l'idée de vie, je crois, que chez lui. Enfin, c'est quelque chose qui est présent, mais disons que la question de l'aventure humaine, enfin de la grande histoire, est posée peut-être différemment. Enfin, j'ai un peu de mal à le définir ici, c'est compliqué. Mais en tout cas, intuitivement, j'ai pas l'impression que ce soit exactement la même problématique. Parce que mes livres, en fait, n'essaient pas de raconter une vie. C'est-à-dire que le modèle de Michon est un modèle très biographique. Là, par exemple, Thérèse Gandaloni, elle raconte sa vie dans le livre. Mais elle raconte sa vie en disant très peu de choses d'elle-même, somme toute. Et c'est ce qui importe, c'est moins l'existence individuelle que ce qui fait lien entre nos vies à tous. Enfin, voilà. Et voilà, c'est ça que je perçois comme une différence importante. Dès que Michon s'est délibérément inscrit dans un type de récit biographique qui s'inspire, qui s'est sans doute pas inspiré au début, mais qui, dans certains de ses livres, a pu s'inscrire de façon tout à fait explicite dans le modèle des hagiographies, dans le modèle des vies des hommes illustres, etc. Enfin, il y a quelque chose de cet endroit-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il a abandonné. Dans les 11, il n'y a plus du tout cette dimension-là.
Mais il y a quand même le côté, la petite histoire, la grande histoire, le côté l'importance de la peinture aussi, des modèles qui sont très importants pour vous.
Donc ça, effectivement, l'articulation entre la petite et la grande histoire, c'est très très important. Et la question, effectivement, de la peinture aussi. Alors après, dans le second livre, enfin dans La Grande Sauvagerie, la peinture est présente. Hein, il y a des choses autour, effectivement, ne serait-ce que parce que l'un des personnages est peintre. Mais la musique, en fait, est, je crois, a un rôle encore plus important dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'une partie du livre... Bon, ça, c'est la construction souterraine. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est forcément apparente à une première lecture. Voilà. Le livre est construit autour de la culture de l'opéra, beaucoup. Alors parfois, ça apparaît à la surface.
Il y a Falstaff qui apparaît.
Voilà. Est-ce que la narratrice est quelqu'un qui aime l'opéra, donc c'est sa culture, mais ça informe de façon plus souterraine, moins explicite l'ensemble de la construction du livre. Il y a plein de détails qui sont empruntés à des opéras.
Vous-même, vous avez confessé avoir écrit ce livre. En écoutant Verdi, c'est important pour vous la musique ou la musicalité même de la phrase. Enfin, on ressent côté.
Oui, en fait, moi, j'ai pas du tout de culture musicale. Enfin, je suis pas musicien, je sais pas jouer d'un instrument. Par contre, et c'est quelque chose qui avait aucune importance dans ma famille. Donc, c'est une pratique tardive. Elle est beaucoup plus tardive que la peinture. La peinture, je me suis intéressée relativement tôt. Mais depuis 5-6 ans, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Et c'est vrai que ce livre, alors pas dans sa totalité, mais c'est un livre qui a été écrit sur 3 ans. Mais pour l'essentiel, il a été écrit l'été dernier. En fait, pas pour l'essentiel, mais disons que la seconde partie a été écrite au printemps et l'été dernier, donc en 2-3 mois, de façon très ramassée. Et tout au long de l'écriture de la seconde partie du livre, il est construit en deux parties qui sont assez nettement séparé. Enfin, la seconde partie est plus narrative que la première partie. Enfin, il y a des effets comme ça. Et donc, la seconde partie a été écrite effectivement en écoutant Verdi de façon intensive et Falstaff particulièrement. Voilà. Donc, c'est une phase de ma vie très verdienne. Et il en passe quelque chose dans le livre.
Et pour le prochain roman, vous écouterez quoi, vous savez?
Mais pour l'instant, je continue à écouter Verdi. Non, je ne sais pas, mais ça va s'arrêter un jour. Même si je crois que ça va rester important très longtemps. Mais, en même temps, l'écriture n'est pas entièrement portée par la musique. Il y a des moments où il ne faut plus écouter de musique. Mm-hmm. Sinon, on serait sourd à la musique de sa propre phrase. Mm-hmm. Mais ça dépend. C'est-à-dire que dans le premier jet, la musique, en tout cas dans mon cas particulier, je ne peux pas parler pour tout le monde, mm-hmm. évidemment, mais dans mon cas particulier, la musique est porteuse. C'est-à-dire dans ce premier jet qui est un peu étrange, où on ne maîtrise pas grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est un moment où, voilà, c'est... D'ailleurs, c'est pas le moment le plus agréable parce qu'on est, c'est pas un sentiment de maîtrise. Enfin, c'est voilà. Par contre, donc là, la musique peut être tout à fait bénéfique. Par contre, lorsqu'il s'agit de revenir, de retravailler, ce que j'aime, enfin, c'est ce que je préfère faire, c'est-à-dire le moment où on essaie de stabiliser une phrase, où on réécrit 5-6 fois la même phrase, etc. C'est très agréable. Ça, c'est une partie du travail où écouter de la musique n'est pas forcément souhaitable, parce que précisément il faut trouver l'équilibre de sa propre musique. Enfin, c'est un peu exagéré de parler de musique, mais en tout cas de son propre rythme. Et en plus, pour ma part, quand j'écris comme ça, quand il s'agit de retravailler une phrase, quand on a le sentiment que la phrase est bancale, qu'il faut absolument arriver à la stabiliser, à lui trouver un équilibre, etc. En fait, je passe quasiment systématiquement à un moment donné à l'oralité. C'est-à-dire que je suis obligé de lire à haute voix. Et avant de donner le texte à lire à quelqu'un d'autre, je l'ai lu intégralement 2-3 fois à haute voix.
À haute voix.
Voilà. Et ça, c'est absolument nécessaire. Donc, évidemment, là, la musique est totalement proscrite. Voilà. Donc, il y a des phases dans le travail d'écriture. Il y a un moment où la musique est porteuse et c'est formidable. Mm-hmm. Et là, Falstaff est merveilleusement tonique et porte le travail d'invention. Et puis, il y a un moment où il faut être seul avec soi-même et puis où il faut en passer par sa propre voix.
Être en face à face avec le texte.
Bon, là, évidemment, je parle pour moi. Tout le monde travaille différemment, mais voilà. Et c'est il est absolument nécessaire vraiment que de dire à haute voix le texte pour moi. Enfin, c'est capital.
Voilà. D'accord. Mais merci.
Merci à vous.
Merci à vous d'être. Vous êtes prêté au jeu d'avoir écrit ce très beau roman donc. Et qui a remporté tous les suffrages et que j'avais découvert au mois de février qui a été porté par les lecteurs parce que c'est d'abord un prix des lecteurs et de la librairie aussi qui en fait l'écho. Voilà.
Et je remercie les lecteurs de Librairie Mola.
Merci à vous.